Bonjour à chacun. Alors voilà, nous retrouvons Paul et de nouveaux compagnons dans ce deuxième voyage missionnaire. Ça se passe environ en l'an 50. Cette fois-ci, Paul est accompagné de Silas, un juif de Jérusalem, et il va rendre visite aux églises qu'il avait fondées 4 ou 5 ans plus tôt dans ce qui est la Turquie actuelle. Il projette ensuite d'aller évangéliser plus à l'ouest le reste de l'Asie mineure en direction d'Éphèse. Mais nous le retrouvons ici en route pour la Macédoine, c'est une province du nord de la Grèce continentale. Et que s'est-il passé pour qu'il change ses plans? Le récit est long et détaillé, une 40aine de versets. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas lire tout, mais de ne prendre que les versets les plus significatifs. Hein? Ah, on y est. Merci. Alors, comment aborder ce long récit? On pourrait se focaliser sur les événements, parce qu'ils sont très variés et intéressants. On distinguera, on le verra tout à l'heure, 4 étapes. On pourrait aussi repérer les principaux acteurs. Paul, naturellement, ses compagnons, mais Dieu intervient à chaque étape de ce récit, et il m'est apparu que c'était lui l'acteur principal, et c'est ça que je vais suivre comme fil directeur, comme fil rouge de mon message. On pourrait parler aussi des personnages rencontrés, et c'est ce que j'appelle des rendez-vous divins préparés par Dieu. Enfin, on pourrait être interpellé, et on le sera, j'espère, par la nature de ce long récit. Ça n'est pas qu'un récit historique, j'y ai vu littéralement un mode d'emploi façon IKEA pour réaliser une mission. Et Paul l'a dit lui-même, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, parce que nous n'allons pas tout lire, voyons les 4 étapes. La première, le Saint-Esprit conduit Paul et ses compagnons à Philippe, en Macédoine. Deuxième étape, à Philippe, Paul et ses compagnons rencontrent Lydie qui se convertit. C'est une riche marchande et voilà qu'elle offre sa maison comme siège de l'Église. Troisième partie, un autre rendez-vous divin, mais de nature très différente, une esclave habitée par un esprit de divination, elle prédit l'avenir, et il y aura de sérieuses conséquences. Quatrième étape, Paul et Silas se retrouvent maltraités et en prison, mais le gardien se convertit, Paul et Silas sont libérés, avec des excuses. Alors, le projet de Paul, comme je l'avais dit, c'était d'aller vers l'ouest de la Turquie, vers Éphèse, ou alors éventuellement d'aller vers le nord, vous voyez vaguement la mer Noire tout en haut. Mais dans les deux cas, le Saint-Esprit intervient et l'envoie à Troas, au centre vers le haut, qui est le port le plus à l'ouest de l'Asie mineure et qui est la porte d'entrée de l'Europe. Pourquoi ces changements? Je lis les textes. Le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Ils se proposaient d'aller en Bithynie, donc vers le nord. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Alors ils descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous, sauve-nous. » Cette triple intervention de l'Esprit de Jésus, le terme est rare, cette triple intervention m'a beaucoup frappée. Dieu a donc pris les choses en main et c'est le projet divin que Paul et son équipe vont réaliser, pas le projet de Paul. On imagine que Paul passe beaucoup de temps à prier, à demander conseil, mais il écoute aussi ce que l'Esprit met dans son cœur. Est-ce que nous avons une telle humilité lorsque nous voulons réaliser nos propres projets? Mais le Saint-Esprit ne fait pas que corriger. Il équipe Paul. Il l'aide en lui donnant une nouvelle équipe. Nous avions vu que tout au début de ce voyage, Paul et Barnabas se querellent. Barnabas part de son côté, Paul serait seul, il ne peut pas, Silas l'accompagne. Et on peut dire, et puis après Silas, il y aura deux nouveaux compagnons. On peut dire que Dieu est intervenu et qu'il a mis les bonnes personnes, mais des personnes relativement inattendues, dans la présence de Paul, pour qu'il l'aide dans cette mission spécifique sur une terre où il y a peu de Juifs. Donc, je disais, Silas est un Juif converti que l'Église de Jérusalem a recommandé à Paul et qu'il accompagne depuis lors. Il remplace en quelque sorte Barnabas. Mais qui sont les deux autres? Je lis. Timothée, sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. J'ajouterai que Timothée est très jeune à l'époque. Il est peut-être même encore adolescent, mais Paul a discerné en lui une grande intelligence et une foi profonde. Donc il va le prendre avec lui pour le former, faire de lui un leader d'église, un disciple, un fils spirituel. Et par la suite, nous voyons dans les épîtres que Timothée va souvent remplacer Paul lorsque Paul continue ses voyages, mais Timothée reste pour fortifier une église. Et puis, c'est quand même étonnant, vous vous rappelez peut-être qu'à Lystre, Marc nous l'a rappelé la dernière fois, il s'était passé des choses bizarres, on avait voulu prendre Silas et Paul pour des dieux, leur faire un sacrifice, et ils avaient dû partir. Mais quand même, ils avaient réussi à convertir des gens, à leur apporter l'Évangile, et Timothée est le fruit de ce premier voyage. Bon, le second personnage n'apparaît jamais sous son nom. C'est Luc, et je lis. Soyez attentifs que jusqu'à présent, on disait « il », enfin, l'écrivain du livre des Actes disait « il », et maintenant, il dit « nous ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Nous nous sommes embarqués à Troas. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis, le port de l'autre côté. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Luc a écrit deux livres très importants du Nouveau Testament, mais il ne donne jamais son nom, par modestie. C'est d'autres témoins qui disent que c'est lui qui a écrit ces livres, et c'est d'autres témoins qui, et parfois Paul lui-même, qui confirment que Luc les accompagne à partir de Troas. En fait, il les accompagne uniquement, au début, pour l'épisode dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire la fondation d'une église à Philippe. Parce que après, quand Paul et Silas quittent Philippe, dans la narration, c'est de nouveau il. Et puis, après ça, lorsque Paul s'embarque vers Troas pour regagner Jérusalem, c'est de nouveau nous. Donc on peut imaginer que Luc est peut-être resté à Philippe pour consolider l'Église. En outre, vous savez que Luc est médecin et nous savons, pour l'avoir lu dans les lettres notamment, que Paul a une santé déclinante. Il a des problèmes qu'on ne connaît pas et puis à part ça, il subit un certain nombre de mauvais traitements. Donc la présence d'un médecin n'est pas inutile. Mais nous savons aussi que Luc est un homme qui écrit très bien, qui a un esprit d'enquête, et il a peut-être servi de secrétaire à Paul. Et je peux imaginer, par exemple, que quand il accompagne Paul dans les rues de Philippe et qu'il assiste à des discussions, il sort ses tablettes et prend des notes. C'est ce qui explique que le récit à Philippe est tellement détaillé. Alors, que font-ils à Philippe? Ce que j'ai appelé un rendez-vous divin. Nous connaissons la stratégie de Paul, c'est d'aller dans une synagogue et de parler aux Juifs, aux hommes, qui se trouvent là. Malheureusement, il n'y a pas de synagogue, donc très peu de Juifs là-bas à Philippe. Alors Dieu va mettre dans le cœur de Paul une autre stratégie. Et c'est une stratégie très différente. Le lieu de rencontre est différent. Le public est différent. Celle qu'il va rencontrer n'est pas un homme, mais c'est une femme de tête et de cœur qui va ouvrir sa maison, très rapidement se convertir, ouvrir sa maison. Et c'est là le siège et l'origine de la première église sur sol européen. Pourquoi parler de rendez-vous divin? Déjà, parce que Paul, en beau juif, n'aurait jamais imaginé parler à des femmes. Ça ne se faisait pas. Rappelez-vous, Jésus et la Samaritaine, ça avait beaucoup choqué les disciples. Je lis. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assises avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait, le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Très vite après, Lydie fut baptisée par sa famille, fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle invita Paul en disant, « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc toute l'équipe va chez elle. Le lieu au bord de la rivière, hors de ville, est connu de tous les Juifs. Rappelez-vous les Juifs en exil à Babylone, ils allaient parler, pleurer au bord du fleuve. On le retrouve à plusieurs reprises. Donc, Paul savait, s'il n'y avait pas de synagogue, où trouver des croyants. Mais il n'y trouve que des femmes, on ne sait pas pourquoi. Il s'agit probablement de femmes en recherche de Dieu, de ces femmes souvent non juives, mais qui, plus que les hommes, étaient en recherche d'un monothéisme. Peut-être même qu'elles n'adhéraient pas au rite, mais elles avaient dans le cœur cette recherche de Dieu. Et sans hésiter, Paul et ses compagnons vont engager la conversation. Ils ne l'auraient jamais fait dans le monde juif, ça aurait été trop mal vu. Mais dans le monde romain ou romanisé, les femmes, et surtout des femmes d'un certain âge ou des veuves, comme l'est sans doute Lydie, avaient du pouvoir. Elles pouvaient reprendre le métier de leur mari et reprendre son autorité dans l'entreprise et au sein de la famille. Donc c'est une femme de ce genre qui est là et qui se montre attentive. Un autre avantage de Lydie, c'est qu'elle a des revenus certainement conséquents. Elle fait un travail, un métier de luxe. Et par la suite, on voit qu'à plusieurs reprises, elle enverra de l'argent à Paul quand il est emprisonné pour le tirer d'affaires. Et elle gère sa famille. Ce qui fait que du coup, ses proches, sa famille, ses employés, les clients qui dépendent d'elle, donc ces gens qui allaient lui rendre visite chaque matin, tout ce monde-là se convertit en même temps qu'elle. Et ça donne la nouvelle, la première église de Philippe. On peut remarquer que notre Seigneur l'a choisie soigneusement pour toutes ses qualités et qu'il a pu la rendre à l'avance réceptive au message de Paul. C'est pour ça que je parle de rendez-vous divin. Le rendez-vous suivant est sans doute aussi divin, mais d'une toute autre nature et avec toute autre sorte de conséquences. C'est une rencontre qui, à première vue, en tout cas pour Paul et Silas, tourne très mal. Alors qu'ils étaient au sommet de leur joie d'avoir converti et créé une nouvelle église, voilà qu'ils se font aborder par une esclave qui avait en elle, je lis, un esprit de divination. Elle se mit à nous suivre en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Puissant. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Paul, excédé, ça se répète des jours et des jours, se retourne et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et au même instant, l'esprit la quitta. Alors, où est le problème? Les paroles sont justes, oui, mais ce n'est pas la femme qui les prononce, c'est l'esprit malin, le démon qui habite en elle. Et tout comme Jésus, Paul ne veut avoir rien à faire avec le monde occulte et avec les démons. Donc, il ne veut pas que ce que dit la femme puisse se mélanger à son propre message et que les gens puissent confondre, même si le fond du message est juste. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui advient de cette pauvre femme? Elle a perdu tous ses pouvoirs, elle est d'aucune utilité à ses maîtres. Est-ce qu'elle-même s'est convertie? Est-ce qu'elle a été soulagée d'être exorcisée? On ne le sait pas. Mais les maîtres, eux, sont furieux. Il s'agissait peut-être de prêtres d'Apollon. À l'époque, dans le monde romain, c'est ceux qui géraient ces questions de prédire l'avenir, comme à Delphes. Et alors, comme ils ont perdu leur source de revenus, parce que les oracles, ça paye, ils font poursuivre Silas et Paul et les accusent d'être des juifs qui répandent des doctrines interdites aux Romains. Je vous rappelle que la religion juive était admise dans l'Empire romain. Mais là, ils les font traîner devant les magistrats de la ville, des juges, Et ces juges ne les écoutent pas, les font fouetter, ce qui est très douloureux, et jeter en prison en donnant l'ordre de les attacher par les pieds, ce qui était très brutal. Et on peut imaginer qu'ils avaient l'intention de les faire exécuter le lendemain matin. Le gardien est chargé de vérifier qu'il ne s'enfuit pas, et s'il s'enfuit, ça lui coûtera la vie. Ce qui était arrivé, ou ce qui aurait pu arriver aux soldats qui gardaient la tombe de Jésus. On peut remarquer la lâcheté de ces magistrats. Ils en seront punis. Mais en attendant, que se passe-t-il de Paul et Silas? Je vous rappelle, ils ont le dos ensanglanté. Ça ne doit pas être très confortable. Mais Dieu n'abandonne pas ses fidèles serviteurs. Et les fidèles serviteurs sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas confiance. Je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient, même mot que Paul y dit. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et toutes les chaînes des prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut. Alors il tira son épée et allait se tuer pour éviter une mort déshonorante parce qu'il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. On peut rajouter que leur côté, toute la ville et les magistrats ont été épouvantés par ce tremblement de terre. Ils savaient très bien que ça signifiait, c'était le signe d'un Dieu très puissant, clairement le Dieu des prisonniers. Mais à travers tout ça, d'une part, les prisonniers ne s'échappent pas, d'autre part, Paul et Silas vont profiter, et ont déjà profité, pour continuer leur travail d'évangélisation. Et la nuit n'est pas achevée. Après avoir parlé ou chanté devant les prisonniers, Paul et Silas profitent de l'occasion pour évangéliser le gardien. Est-ce que vous imaginez la scène ? Une prison à moitié démolie, vaguement éclairée par une torche, avec un groupe de prisonniers dans un coin qui ne se sont pas enfuis, ils veulent encore entendre des choses, le gardien prêt à se tuer et deux prisonniers en sang qui lui disent « Non, non, arrête, surtout pas ça !» Et voilà, je lis. C'est aussi un rendez-vous divin, mais c'est amusant, il est basé sur un quiproquo, les deux sens du mot « sauver la vie », matériel et spirituel. Tremblant de peur, le gardien demande « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et du tac au tac, Paul et Silas répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu. Ben, vous avez là une phrase d'évangélisation lapidaire, ça tient une phrase et c'est le résumé de la foi chrétienne. Et ça marche. Le gardien, lui, voulait rester en vie, mais il est touché par cette offre de salut spirituel. Et du coup, on peut dire que Dieu avait préparé son cœur. Il va agir. Il va prendre chez lui les deux prisonniers. On ne sait pas ce qui arrive aux autres. Il va laver, soigner leurs blessures. Il va se faire baptiser, lui et toute sa famille. Il va offrir, on est toujours au milieu de la nuit, il va leur offrir un bon repas et surtout se réjouir avec tous les siens, à l'heure même, en pleine nuit. Le gardien les prit, lava leurs blessures, il fut baptisé et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau? Passer ainsi de la terreur et du désespoir à la joie du salut. Mais Paul n'oublie pas la situation. Il s'agit de réparer une injustice pour assurer l'avenir de l'Église de Philippe. Et ainsi, l'œuvre de Dieu n'est pas finie. On pourrait laisser filer Paul et Silas, le gardien pourrait les laisser filer, ou même les magistrats qui essayent d'ailleurs d'envoyer leurs hommes en disant « Allez, filez et puis ne revenez pas ». Ce n'est pas ce que veut Paul. Il est beaucoup plus malin, si vous me pardonnez. Mais c'est une stratégie que lui a inspirée Dieu. Il veut que son Église n'ait pas le soupçon d'être un ramassis d'anciens prisonniers ou d'avoir été créé par quelqu'un pas très recommandable. Donc, il va commencer par blâmer les magistrats qui ont maltraité des citoyens romains. C'était interdit. Et Silas est aussi un citoyen romain. On n'avait pas le droit de les fouetter, ni de ne pas les écouter, évidemment, ce n'est pas de la justice. Ensuite, il va exiger d'être mis en liberté, oui, mais ouvertement, en plein jour, avec des excuses publiques, et d'être accompagné triomphalement chez Lydie. Ça donnera de la respectabilité à l'Église. Et lorsqu'il prendra congé de l'Église, il y laissera un représentant, probablement Luc, pour consolider l'Église et l'organiser. Et voilà l'argumentaire de Paul. Vous l'imaginez, flambant de colère. Comment ils nous ont fait fouetter au public sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette, il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Pris de peur, parce qu'ils se rendent compte que leur avenir est en jeu, les magistrats vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent, mais poliment on imagine, de bien vouloir quitter la ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent donc chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères qui priaient sans doute pour eux. Ils les encouragèrent et puis reprirent leur route. On peut se demander si la maison du gardien s'est transformée en deuxième église de maison ou s'il a rejoint l'église de Lydie. En tout cas, on sait que 10 ans plus tard, à l'époque de l'épître aux Philippiens, l'Église est importante et Paul cite les noms d'un certain nombre de gens qui n'apparaissent pas là. Donc l'Église s'est bien développée. Alors, quelle conclusion tirer de cette histoire? Je veux dire, pour nous, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je dirais que le travail missionnaire, l'évangélisation, c'est clairement un travail d'équipe avec le soutien par l'arrière d'une église. Tout le monde passe peut-être sur les routes, mais il est important que l'église soit avec eux, comme l'était celle d'Antioche. Et puis, chacun doit utiliser dans l'équipe ses talents, ses capacités qui peuvent être différentes. Nous l'avons vu avec les 4 de cette équipe-là. Dieu, par le Saint-Esprit, ou comme dit Paul à ce moment, l'Esprit de Jésus-Christ, est largement partie prenante de nos projets d'évangélisation. Je dirais même, comme l'avait dit la semaine dernière Vincenzo, qu'il en est l'acteur principal. Il inspire, il corrige, il équipe, il organise des rencontres. Il encourage même durant la persécution. il manifeste sa puissance en temps utile, hein, une vision, une guérison, un tremblement de terre. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Il transforme les cœurs, Lydie est surtout le gardien, et il transforme les comportements des gens en face. Il ne laisse pas capoter un projet d'évangélisation qu'il a supervisé. Alors, imitons Paul, comme lui-même a imité le Christ. Prions, louons, chantons, c'est ce que nous avons fait ce matin. Lisons sa parole, puisque nous avons la Bible écrite. Appelons-le à l'aide dans nos prières, il nous inspirera et nous dirigera. Amen.